D'ici peu, en fait, dans Genèse 1, du tohu-bohu, on pourrait traduire du chaos et du vide à la plénitude en Christ. Alors le message de ce matin, il va nous entraîner sur un parcours du début de la création jusqu'à la restauration de toutes choses en Jésus-Christ, à la plénitude en Christ. Alors c'est un sacré parcours. Je vous rassure, je ne vais pas détailler chaque étape, hein, parce que autrement on sera encore là demain matin. Simplement vous apporter quelques petites étapes sur ce parcours de la création jusqu'à la restauration de toutes choses à la plénitude en Jésus-Christ. Alors une première lecture dans Genèse 1, au verset 1, je lis. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Hein, c'est là où on trouve en fait ces deux termes hébreux, tohu bohu, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. En fait, dans ces trois premiers versets de Genèse 1, nous voyons non seulement le début de la création, mais aussi la présence d'un Dieu trinitaire. Il y a Dieu le Père qui est là, c'est celui qui crée les cieux et la terre. On voit l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu, le Ruach en hébreu ici, se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quand Dieu parle, c'est qui? C'est Jésus. Hein? Parce qu'au commencement était la parole. Donc ici, on voit que dès le début de la création, la Trinité est présente. Et sans la Trinité, en fait, il n'y aurait pas eu de la création. Chaque personne était là, chaque personne de la Trinité était là pour permettre que la création de cette terre s'accomplisse. Et je vous propose que l'on s'intéresse un peu plus en fait à l'action du Saint-Esprit au moment de la création. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, le Ruach de Dieu, en fait ici on pourrait traduire autrement, planait au-dessus des eaux ou planait au-dessus des choses transitoires, dans un sens un peu plus symbolique. Parce que les choses n'étaient pas encore bien formées, les choses n'étaient pas encore bien mises en place. C'était encore, comme on a vu juste avant, tohu bohu, c'était le chaos, c'était le désordre, c'était le désert, c'était le vide. Les choses étaient encore inconstantes. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de ces choses-là, cherchant un endroit où il pourrait, quelque part, symboliquement là aussi, poser pied. Hein, c'était encore chaos. L'Esprit de Dieu, il ne peut pas se poser tranquillement au milieu du chaos. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer à séparer. Il va séparer les ténèbres du jour, et alors il y aura le jour et la nuit. Il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et alors il y aura le ciel et il y aura les océans. Il va séparer le sec et il va séparer les eaux d'en bas et il y aura la terre, hein, il y aura les continents et il y aura les mers et les océans. Quand Dieu sépare, en fait, c'est pour remettre de l'ordre sur cette terre. Et quand on pense à la terre, c'est pour nous inévitablement, on pense à un Dieu créateur. Hein? On connaît justement le récit qu'on vient de lire. On sait que celui qui est à l'origine de toute chose, c'est Dieu lui-même. On n'a pas de doute là-dessus. Mais aujourd'hui, vous savez qu'on est dans une société qui a énormément remis en cause cette certitude pour nous en tant que chrétiens. Et puis, par exemple, au travers de la théorie de l'évolution. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un détail là-dessus. Je suis ni un grand physicien, ni un biologiste ou un archéologue reconnu. Je suis rien du tout de tout cela. Mais par contre, je crois en mon Dieu. Et je pense que nous, en tant que croyants, on a une certitude. On ne va pas pouvoir prouver scientifiquement les choses, mais on a une certitude. Notre certitude elle est dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est déjà suffisant. C'est une preuve suffisante. Hein? Et puis, aussi, une théorie reste une théorie. La théorie de l'évolution, on nous l'a enseignée pour certains déjà tout petits. Je pense pour chacun d'entre nous, depuis tout petit, en fait, vous l'avez entendu. Et une théorie reste une théorie. Hein? C'est-à-dire qu'une théorie, c'est une théorie. C'est pas prouvé scientifiquement. Mais on l'a tellement entendu, théorie de l'évolution, qu'on en a fait presque un acquis scientifique. Aujourd'hui, c'est remis en cause, hein, c'est remis en question. Il y a des scientifiques qui se questionnent sur le sujet, et on peut se questionner, en effet. Voilà. Mais nous avons confiance dans la parole de Dieu, et cette confiance-là, elle est toute suffisante pour savoir déjà que, oui, notre Dieu est créateur, parce qu'il le dit de lui-même. Psaume 14, verset 1, je vous le dis juste comme ça. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, vous voyez déjà, à l'époque de David, il y avait des gens qui croyaient que Dieu n'existait pas. Hein? C'était déjà quelque chose de commun. Il n'y a pas eu besoin d'attendre la théorie de l'évolution pour que les gens ne croient plus en un Dieu. Déjà, du temps de David, il y avait plein de personnes qui disaient, non, mais si je suis sur cette terre, c'est uniquement par la volonté peut-être de mon père et de ma mère. Et une fois j'étais, je vous donne un petit témoignage, une fois j'étais dans un restaurant, dans les environs de Lausanne, un restaurant assez classe, parce que j'étais là-bas avec mon patron. Alors c'était pas l'hôtel de Crissier, hein, le fameux là, mais c'était un restaurant quand même avec un certain standing. Et puis on mangeait à la table, et puis on était avec quelqu'un aussi du travail ici à la table. Et puis tout à coup mon patron il dit ah Dieu n'existe pas. Et moi je sais pas pourquoi mais c'est sorti comme ça du tac au tac et je crois que c'était le Saint-Esprit. Et puis j'ai dit alors il y a rien de moins sûr que ça. Mais je l'ai dit avec conviction et puis avec force. Et tout à coup il y avait silence dans le restaurant. Parce que je l'ai dit quand même assez fort, puis ça m'a presque surpris moi-même. Hein? Dieu n'existe pas, mais il n'y a rien de moins sûr que ça. Et c'est le Saint-Esprit, je crois, qui m'a poussé à répondre à mon patron comme ça. Donc des insensés, des fois, on en a pas très loin de chez nous. Hein? Hébreux 11, verset 3. Je le lis aussi juste comme ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. Et la foi, elle est suffisante pour reconnaître que Dieu est bel et bien le Dieu créateur de chacune de nos vies, mais de la terre et des cieux et de l'univers qui nous entoure. Et c'est par la foi. C'est pas quelque chose qu'on peut imposer à notre voisin, mais nous reconnaissons par la foi que Dieu est bien le créateur de toutes les choses visibles qui nous entourent. En Corinthiens 8, verset 6. Je le lis aussi comme ça, je m'excuse, après je m'arrêterai peut-être un peu plus sur d'autres passages qui nous parlent aussi de ce Dieu qui est à l'origine de toute chose. 1 Corinthiens 8, verset 6, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Il y a un seul Dieu, le Père. Toutes choses viennent de lui. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes. Il n'y en a qu'un. Tout vient du Père, et si on est aujourd'hui ce qu'on est, c'est uniquement par la grâce de Jésus-Christ. On n'est pas le fruit du hasard. Et pour nous, comme je le disais avant, nous croyons. Donc nous croyons ce qui est écrit dans la parole, ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein? Mais du moment où on ne croit pas que la parole est inspirée de Dieu, alors là, tous nos raisonnements s'écroulent et toutes nos convictions s'écroulent. C'est pour ça qu'il est important de garder cette confiance que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle dit, elle est vraiment la pensée du Seigneur, elle n'est pas la pensée d'un homme, elle est véritablement inspirée par le Seigneur. Encore un autre passage, Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un autre petit Dieu qui est venu en second pour faire la lune ou je ne sais pas quoi. Notre Dieu est le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui l'a faite, c'est lui qui l'a affermie. Et là, on a une indication qui est intéressante. Il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Déserte, ici, le mot hébreu, en fait, on retrouve tohu. Hein? On retrouve ce mot qui veut dire chaos, qui veut dire vide, qui veut dire désert, qui veut dire néant. Dieu, il n'a pas créé cette terre pour qu'elle soit déserte. Il l'a créée, il l'a formée. Pourquoi? Pour qu'elle soit habitée. Habitée par qui? Habitée par l'homme. Parce qu'il aurait pu se contenter. Ah, mais voilà qu'il y a une belle terre, mais voilà que quand même une œuvre magnifique que j'ai faite là. Et il aurait pu se satisfaire de ceci. Non, il déclare qu'il ne l'a pas créée pour qu'elle soit déserte. Donc pour Dieu, tant que la terre n'était pas habitée par l'homme, c'était comme un désert. C'était comme quelque chose de vide. Hein? La terre, à l'origine, a été créée, pas pour les belles collines, bien sûr que ça c'est l'œuvre de Dieu, hein? Pour les beaux ruisseaux, pour les belles images. On a vu là un oiseau, c'était magnifique juste avant, qui était croché sur un rocher. Hein? Oui, c'est son plaisir. Mais son plaisir avant tout, c'est l'homme. Parce qu'autrement, pour Dieu, elle est déserte. On entend des fois que notre terre, ce serait notre mère. Mais ça, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Hein? Parce qu'on pourrait tourner les choses comme ça, dire que, en fait, l'homme n'a pas été créé pour la terre, mais la terre a été créée pour l'homme. Vous comprenez? La terre, c'est quelque chose d'important, mais l'homme qui est dessus, pour Dieu, c'est quelque chose de bien plus important. Il avait un but, et ce but-là, c'était qu'elle ne soit pas dans le chaos, qu'elle ne soit pas déserte, mais qu'elle puisse être habitée par l'homme. Alors aujourd'hui, la terre, elle est habitée par l'homme, hein, la preuve, hein, il n'y a qu'à se regarder autour de nous, il y a des hommes et des femmes. Mais le tohu, il est quand même un peu là, hein, peut-être on l'a entendu dans la prière aussi, des fois aussi. On est face au chaos aujourd'hui. Alors, est-ce que Dieu a échoué à son projet? Non. Il savait très bien que pour ramener l'ordre dans ce bas monde, il aurait besoin d'envoyer son Fils. Parce que sans Jésus-Christ, sans sa venue, on est sûr d'une seule chose, c'est que le chaos serait complet aujourd'hui sur cette terre et que les choses iraient sans aucune espérance. Donc, pour ramener de l'ordre dans ce chaos, Dieu a envoyé son Fils. Et on peut lire, par exemple, dans l'évangile de Jean, Jean 1, verset 32. Le témoignage de Jean-Baptiste. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean a été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Il a vu l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, descendre sur Jésus et s'arrêter sur lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ici, s'arrêter, en fait, on pourrait aussi traduire par demeurer, subsister, continuer à être présent. Le Saint-Esprit, enfin, a pu trouver un endroit stable. Et cet endroit stable, il l'a trouvé où? En Jésus-Christ. Hein? Parce que vous vous rappelez, au début, l'Esprit planait au-dessus des choses, des eaux, hein? Des choses inconstantes. Et l'Esprit Saint a pu trouver une véritable demeure stable où? En Jésus-Christ. Jean-Baptiste a vu l'Esprit Saint descendre sur Jésus. Et là, le Saint-Esprit a pu demeurer, c'était la première fois, sur un homme d'une manière complète, d'une manière stable. Alors aujourd'hui, oui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on était baptisés du Saint-Esprit, mais je pense qu'on doit bien reconnaître que des fois, le Saint-Esprit, peut-être, il demeure pas d'une manière entière et complète et stable en nous, parce qu'on reste des pécheurs. Et comme disait aussi l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1, verset 22, on a reçu les arts de l'Esprit. Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Les arts, c'est-à-dire un acompte. On n'a reçu qu'un acompte du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on n'a pas reçu la plénitude, l'entièreté du Saint-Esprit. Ça va venir, mais ce n'est pas pour tout de suite. On a reçu un acompte. Hein. Alors, si on travaille, des fois, en effet, on va recevoir un acompte sur notre salaire. Mais le plein salaire, on va le recevoir quand ? À la fin du mois ou à la fin des travaux engagés, on va être payé du plein salaire. Alors avec Dieu, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a reçu un acompte du Saint-Esprit, mais un jour, on va recevoir le plein salaire. Alléluia. Et ce jour, ce sera quand ? Ben, ce sera soit le jour de notre mort, ou soit le jour de notre enlèvement et de notre rencontre auprès du Seigneur. Et que faut-il faire pour recevoir ce plein salaire ? Persévérer sur le chemin de la foi, demeurer en Jésus-Christ, ne pas se priver de sa grâce. Alors un jour on aura ce plein salaire, un jour on aura le privilège aussi, comme Jésus-Christ, que le Saint-Esprit va véritablement pouvoir s'arrêter, va pouvoir demeurer stable en nous, et en fait on aura une pleine communion avec Dieu. Ce sera extraordinaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils ont une pleine communion entre eux. Et un jour, nous aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a reçu qu'un acompte, mais un jour, on aura le plein salaire du Saint-Esprit, on aura une pleine communion avec Dieu. Un jour, il n'y aura plus besoin qu'on soit enseigné. Hein? Ce n'est pas encore ce jour-là. Aujourd'hui, on a besoin des Saintes Écritures. Mais un jour, quand nous serons en pleine communion avec le Saint-Esprit, on n'aura plus besoin d'être enseigné. Quel jour merveilleux! Il y a des chrétiens du temps de la Réforme, ils ont cru qu'ils étaient déjà à cette époque-là. Alors ils ont jeté leur Bible. Et pour eux, c'était un signe de maturité spirituelle. Parce qu'ils disaient, cette fois, nous, on est vraiment pleinement conduits par le Saint-Esprit. Ben, vous imaginez qu'ils ont fait 2-3 bêtises après. Hein? Aujourd'hui, on a besoin encore de la parole. Mais un jour, on sera en pleine communion avec le Saint-Esprit. En pleine communion avec nos frères et nos sœurs. Et ça veut dire que ce sera quelque part la Saint-Valentin toute l'année. Quel jour glorieux de pouvoir être dans une relation aussi proche avec notre Seigneur. Colossiens 1, verset 15. Il nous est parlé de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On sait que Dieu, que Jésus en fait, il n'a jamais été créé en tant que tel, il est Dieu, il est de toute éternité. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est le premier-né ? Parce qu'il est le premier homme en fait qui a pu porter toute la plénitude du Saint-Esprit en lui. Et ce premier-né, ben nous, un jour, on va être à la suite de ce premier-né. Amen. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. L'homme n'a pas été créé pour lui-même, la terre n'a pas été créée pour elle-même. Ça a été créé pour Jésus-Christ, pour qu'un jour, nous puissions aussi devenir cette véritable nouvelle création, qu'on puisse aussi faire partie de ces premiers-nés, avec une pleine restauration de la vie de Christ en nous. Alors voilà, j'arrive à la fin de ce voyage, hein, ça n'a pas été si long que ça. Mais au début, c'était le tohu-bohu, au début, c'était le vide, au début, c'était le désordre. Et Dieu a commencé à séparer jour, nuit, eau, hein, terre, le ciel, les eaux en bas. En séparant, Dieu a commencé à mettre de l'ordre. Et bientôt, il y aura une dernière séparation qui va arriver sur cette terre. C'est que Dieu va séparer les enfants qui appartiennent aux ténèbres, les enfants qui appartiennent à la lumière. Dieu va séparer le mal avec le bien. Et alors, enfin et véritablement, l'ordre régnera et le Saint-Esprit ne planera plus sur ces éléments inconstants, mais il pourra se poser sur chacun de ses enfants. Amen.